Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La disparition d'une grande figure du théâtre et du cinéma, Michael Lonsdale s'est éteint à Paris à 89 ans. Son rôle de moine dans Des hommes et des dieux avait valu à ce catholique engagé le César du meilleur second rôle masculin. Impasse politique au Liban, si un gouvernement n'est pas formé dans les plus brefs délais, le pays se dirigera vers l'enfer, déclare le président Michel Aoun. Nous joindrons notre correspondant à Beyrouth, Aurélien Colli. En France, le département du Rhône prend de nouvelles mesures pour freiner la propagation du coronavirus. À Lyon, les grands rassemblements sont limités à 1000 participants. La fermeture de l'usine de Béthune est la seule option pour la direction de Bridgestone. Une réunion de crise a rassemblé les ministres du Travail et de l'Industrie, les élus locaux, les syndicats et la direction pour trouver des solutions. Sa barbe avait blanchi et ses sourcils étaient devenus broussailleux, mais son regard semblait de plus en plus lumineux. Michael Lonsdale a quitté ce monde à 89 ans. Il avait joué de très nombreux rôles, au théâtre comme au cinéma. Il avait aussi prêté sa voix pour des livres audio. Michael Lonsdale a travaillé avec François Truffaut, Jean-Pierre Mocky, Jean-Jacques Hano. Il a même participé à un James Bond et c'est dans un rôle de moine qu'il a obtenu son César du meilleur second rôle. Bonsoir Benoît Grossin.
Bonsoir.
C'était un acteur très éclectique, dont le nom a d'ailleurs été prononcé différemment. Manière.
Il y tenait à son prénom Michael et non pas Michael ou Michel. Michael Lonsdale, né à Paris et dont le père militaire de l'armée britannique qui parlait à peine le français a choisi ce prénom anglo-saxon. À Londres, enfant, puis au Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale, il découvre à Casablanca le cinéma américain destiné aux troupes et anime des émissions de radio avant de revenir en France en 1946, à l'âge de 15 ans. Il rencontre alors le metteur en scène Roger Blin qui lui fait découvrir le théâtre. Sur les planches des années 50 aux années 2010, sans interruption, dans des pièces de Samuel Beckett, de Eugène Ionesco, de Marguerite Duras, comédien, metteur en scène à la voix énigmatique.
En quoi puis-je vous être utile ?
Michael Lonsdale s'est fait un nom au cinéma grâce à François Truffaut pour ses rôles inoubliables dans La mariée était en noir et Baiser volé, avant de tourner des dizaines de films avec Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Jean Eustache, Louise Buñuel, Orson Welles, Jean-Pierre Mocky et beaucoup d'autres. Un James Bond, vous l'avez dit, Moonraker en 1979 dans le rôle du méchant Hugo Drax, Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano en 1986 et plus récemment le long métrage de Xavier Beauvois, Grand Prix du jury à Cannes en 2010, Des hommes et des dieux, dans lequel il interprète le moine libre et héroïque, frère Luc, assassiné à Tibérine. Michael Lonsdale, interrogé par Luc de Goustine dans « À voix nue » sur France Culture en 2011, évoquait ses débuts, son regard sur le métier d'acteur et l'importance de sa foi chrétienne.
Vous savez, c'est un métier où on ne sait jamais où on va. Mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que plus je le fais, plus je le pratique ce métier, plus je suis heureux de le faire. Alors que beaucoup de gens me disent, mais vous n'êtes pas un peu lassé, ça fait que quoi, 60 ans, mais je compte pas, oui, 60 ans, j'ai dû commencer à jouer, enfin à travailler vraiment dans les années 54, 5, ouais, 6 par là. Ouais. Mais quand même, j'avais fait un peu de spectacle avant au Maroc, dans les émissions enfantines.
Oui, on apprend des choses à 14 ans déjà, ou 13 ans, n'est-ce pas?
Oui, oui, oui.
Vous aviez une émission au Maroc.
Oui, à Radio Maroc, pour le jeudi et le dimanche. Alors là, on chantait, ouais, et puis on jouait des pièces, et je me rappelle très bien de mon premier rôle, c'était à Tchoum, dans Blanche-Neige et les Sept Nains. J'avais beaucoup touché par la phrase de Rimbaud, « Je vais être un autre ». Et moi, je l'avais appliqué. En effet, ben, l'autre, c'est le rôle que je vais jouer. J'ai l'impression que j'avais des difficultés de vie, sûrement après une enfance comme ça, où un enfant dissimulé, ça doit travailler dans l'inconscient. Et donc, c'est pas moi-même qui m'intéresse, c'est d'être les autres. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai eu un père spirituel par la suite, quand je me suis converti au christianisme à l'âge de 22 ans, et j'avais un père dominicain qui me disait « Oui, vous ferez au public des confidences que vous ne ferez à personne. »
Et dans le registre de la comédie, dans le film de Josiane Balasko, « Ma vie est un enfer », sorti en 1991, on se souvient que Michael Lonsdale incarne aussi avec drôlerie et gourmandise l'archange Gabriel.
Merci Benoît Grossin, et vous nous avez fait écouter un très joli extrait d'Avoix nues avec Michael Landal, à réécouter incessamment sous peu sur France Culture. Donald Trump annoncera vendredi ou samedi le nom du magistrat ou de la magistrate qu'il souhaite voir entrer à la Cour suprême suite au décès de Ruth Bader Ginsburg. Les juges de l'institution sont nommés à vie, et donc une nouvelle nomination à la Cour suprême par l'actuel président américain serait l'occasion de porter sa majorité conservatrice à 6 juges contre 3 pour des années, voire des décennies. Il faut néanmoins que cette nomination soit approuvée par le Sénat. Plongé dans une terrible crise économique et sociale, le Liban n'arrive pas à se doter d'un nouveau gouvernement. Pressé par Emmanuel Macron, les partis politiques libanais s'étaient engagés au début du mois à mettre rapidement sur pied un cabinet de mission composé de ministres compétents et indépendants. Mais c'est aujourd'hui un constat d'échec, et le président Michel Aoun déclare même que, sans accord, le pays se dirigera vers l'enfer, Aurélien Colli.
Oui, le principal obstacle est toujours l'attribution du ministère des Finances, un ministère clé puisqu'il intervient dans toute décision du gouvernement. Alors, le nouveau Premier ministre sunnite devait, dans la ligne de l'initiative française, choisir un gouvernement restreint d'experts indépendants des partis confessionnels pour des réformes et pour débloquer l'aide internationale. Eh bien, ce qu'on appelle ici le tandem chiite, c'est-à-dire les deux partis qui dominent la communauté chiite libanaise, le Hezbollah proche de l'Iran et Amal dirigé par le président du Parlement, ce tandem continue d'exiger ce ministère des Finances. En face, les autres partis confessionnels refusent catégoriquement. Leur argument, c'est de dire que rien ne prévoit que ce portefeuille revienne à la communauté chiite et que c'est au Premier ministre de choisir librement ses ministres. Ils accusent du coup ce tandem chiite de bloquer la formation du gouvernement, de faire même capoter l'initiative française. Une critique qu'on entend aussi désormais du côté des alliés chrétiens de ce tandem, le camp du président Aoun, qui a été aujourd'hui, vous le disiez, très alarmiste si ce gouvernement ne voit pas le jour. Alors pourquoi cette intransigeance des partis chiites sur ce portefeuille des finances? Eh bien parce que c'est en réalité le seul levier qu'ils ont sur l'exécutif, partagé au Liban entre un président chrétien et un premier ministre sunnite, le seul levier sur l'action du prochain gouvernement dont ils se méfient en raison du contexte actuel, l'état économique du pays, la pression américaine surtout sur le Hezbollah et sur l'Iran, les réformes et l'intervention du FMI annoncée aussi, l'obtention de ce ministère. Le ministère des Finances est donc perçu comme quasiment existentiel pour eux.
Aurélien Colli, à Beyrouth. Les résultats définitifs ne sont pas encore tombés en Italie, où se déroulaient hier et aujourd'hui des élections régionales. 6 régions, 4 à gauche, 2 à droite, devaient élire de nouveaux présidents. L'occasion de voir comment se porte le gouvernement de coalition de Giuseppe Conte. Bonsoir Bruce de Galzin.
Bonsoir.
L'extrême droite espérait s'emparer de nouvelles régions aux mains de la gauche, dont la Toscane, et ça semble très serré, Bruce.
Oui, mais le pari semble perdu. La Toscane, c'était l'enjeu de ces élections, car elle a toujours été gouvernée à gauche, tout simplement. Et c'est la région où les résultats sont les plus serrés avec les Pouilles. Mais un avantage se dessine tout de même pour la gauche. Et si cela se confirme, ce sera alors un énorme ouf de soulagement pour le gouvernement Conte, en effet, et notamment pour le Parti démocrate. Dans les Pouilles aussi, c'est très serré, avec là encore un avantage quand même pour la gauche sortante. 3e région de gauche, la Campanie. Elle, c'est sûr, elle reste à gauche. En revanche, les marches basculent. Et là, c'est l'extrême droite de Fratelli d'Italia qui s'en empare. Enfin, les autres régions étaient déjà à droite. Elle le reste, notamment la Ligurie, la région de Gênes et la Vénétie, où le président sortant de la Ligue, Luca Zaia, est plébiscité jusqu'à 75%. Certains lui voient d'ailleurs un destin national au sein même de la Ligue et le voient prendre la place de Matteo Salvini, qui en effet, et si lui ne gagne pas la Toscane, eh ben, il aura bel et bien perdu son pari. Mais il y avait aussi un référendum en Italie pour réduire de plus d'un tiers le nombre de parlementaires. Les derniers résultats donnent le oui largement en tête, près de 70%. Et c'est la seule victoire du mouvement 5 étoiles qui gouverne quand même et qui portait cette réforme. Ils ont été totalement absents des régionales, alors ils se sont concentrés sur le référendum et ils viennent même de proposer de réduire désormais les salaires des parlementaires.
Bruce de Galzin en direct de Rome. La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 961 000 morts à travers le monde. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil et l'Inde, qui recense près de 80 000 décès liés au Covid-19. Le Taj Mahal, le bâtiment le plus emblématique d'Inde, était fermé depuis 6 mois à cause des restrictions sanitaires. Malgré la flambée de nouvelles contaminations, il a rouvert ses portes ce matin. Mais pour le secteur du tourisme indien, la crise est loin d'être terminée. Sébastien Farsi s'est rendu à Agra, la ville du Taj Mahal.
Sur le bord de la rue semi-piétonne qui mène au Taj Mahal, le magasin de Sanjeev Chaturvedi vient de rouvrir ses portes. Ce commerçant de souvenirs artisanaux enlève la poussière de ses répliques du Taj Mahal en marbre blanc qui sont exposées et il arbore un large sourire.
Ça fait 188 jours que nous sommes fermés. Ça a été très difficile de survivre. Donc je suis content de pouvoir enfin ouvrir mon magasin et de voir des gens dans la rue. Je pense que tout le monde a appris à vivre avec le corona. Donc c'est bien qu'il rouvre.
Devant le fameux monument, les premiers touristes arrivent en cette matinée étouffante de fin de mousson. Seulement des Indiens, car les autorités n'émettent pas de visa pour les touristes étrangers. Les nouvelles règles du Covid-19 s'imposent ici dès le guichet. Prise de température, numéro de téléphone de chaque visiteur et jauge limitée. Seulement 5000 personnes peuvent admirer le Taj Mahal chaque jour contre une affluence de 80 000 personnes avant en haute saison. Les tickets s'achètent aussi sur internet pour éviter les files d'attente. Le guide Furkan Ali attend patiemment à l'entrée en suant à grosses gouttes.
Il va falloir des jours, voire des mois avant que j'aie des clients, car aujourd'hui il n'y a que des Indiens. Or, mes clients sont étrangers, surtout américains et européens, et ils ne peuvent pas venir car il n'y a pas de vol ni de visa.
Toutes ces restrictions offrent au moins à ces quelques centaines d'Indiens une visite exceptionnelle. La jeune Ruby Gardam en sort enchantée.
J'ai déjà visité le Taj Mahal plusieurs fois et aujourd'hui c'était une nouvelle et fabuleuse expérience car je ne l'ai jamais vu aussi vide.
Sans touristes, certains commerçants estiment toutefois que cela ne vaut pas la peine d'ouvrir leur magasin, surtout dans cette région du nord de l'Inde où le Covid-19 circule activement. Les 100 magasins Emporium, par exemple, qui vendent les plus beaux produits artisanaux d'Agra, resteront ainsi fermés au moins jusqu'à la fin septembre. Pour Prahalad Agarwal, président de la Chambre de commerce touristique d'Agra, la reprise du tourisme sera donc très longue.
Aujourd'hui, les quelques touristes qui viennent ne veulent pas aller au restaurant ou dans les magasins. Ils veulent aller en extérieur pour éviter le virus. Les étrangers, même si on autorise les visas, je ne suis pas sûr qu'ils veulent tout de suite revenir. Pour moi, la reprise ne débutera qu'en octobre 2021. Et il faudra 3 ou 4 ans pour retrouver le niveau que l'on connaissait avant la crise.
Le secteur du tourisme représente 7% du PIB et 8% des emplois en Inde. Selon le rapport d'une chambre de commerce, ce secteur pourrait perdre jusqu'à 55 milliards d'euros à cause de la crise sanitaire.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI et de France Culture en Inde. Le Royaume-Uni ne parvient pas à endiguer l'épidémie de Covid-19 et il va prendre des mesures encore plus drastiques. Actuellement, 13 millions de Britanniques subissent des restrictions locales, là où le taux de contamination est le plus élevé. Mais cela ne suffit pas. Le nombre de cas quotidiens double chaque semaine. Et aujourd'hui, les deux experts médicaux du gouvernement ont fait une présentation inquiétante, Richard Place.
Une courbe bleue qui progresse lentement jusqu'à la date d'aujourd'hui, puis dont les barres deviennent rouges et atteignent des sommets. C'est le graphique que Patrick Vallens veut montrer à tout le monde. Scénario catastrophe du conseiller scientifique en chef qui s'appuie sur la propagation actuelle de l'épidémie.
Si ça continue, à la mi-octobre, nous arriverons à environ 50 000 cas par jour, ce qui nous conduirait, un mois plus tard, vers la mi-novembre, à plus de 200 morts par jour. Et pour être sûr de ne pas suivre cette courbe exponentielle, ça demande de la vitesse et des actions, suffisamment pour faire baisser cette augmentation.
Le message est clair, les mesures actuelles ne suffisent pas, surtout si les règles ne sont pas scrupuleusement respectées. Et ça ne relève pas seulement de la liberté de chacun, dit le professeur Chris Whitty, le conseiller médical en chef.
Si je prends des risques à titre individuel, j'augmente le risque pour tous ceux qui m'entourent et tous ceux qui le côtoient. Tôt ou tard, cette chaîne rencontrera des gens qui sont vulnérables, âgés ou qui auront des séquelles du Covid.
Cette fois, Boris Johnson et le corps médical sont exactement sur la même ligne. Le Premier ministre va annoncer de nouvelles mesures dans la semaine.
Richard Place à Londres. En France, on attendait de nouvelles restrictions dans le Rhône et le préfet annonce effectivement un certain nombre de mesures pour Lyon, la métropole et pour tout le département. Bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir à tous.
Alors a priori, c'est un peu moins strict qu'à Nice. Hein. Les bars et les restaurants ne ferment pas, Mathilde.
Voilà, effectivement, c'est ce qui diffère d'autres grandes villes de France. Les bars, les restaurants à Lyon ne changent pas leurs horaires. Le préfet a veillé à ne pas pénaliser ce secteur clé dans la ville, mais il va renforcer les contrôles dans ces établissements. Il muscle aussi la répression sur la voie publique. La consommation d'alcool y est interdite dès 20h le soir et les rassemblements de plus de 10 personnes devront être signalés en préfecture. Alors cela va contrarier des fêtes parfois très animées sur les quais à Lyon actuellement, et malgré la pandémie, les bords du Rhône où se sont massés en fin de semaine dernière par dizaines de jeunes lyonnais. Autre mesure annoncée aujourd'hui, le masque qui devient obligatoire dans 10 communes supplémentaires en périphérie de Lyon. Il l'était déjà à Lyon même et à Villeurbanne. Et puis dans les EHPAD, ce sont des restrictions importantes qui se mettent en place. Les visites sont limitées, pas plus de 2 visites par résident et par semaine.
Et il faut le souligner, Mathilde, ces mesures font suite à une propagation inquiétante du virus.
Oui, une dégradation très nette. Le taux d'incidence a doublé en 3 semaines. On est à Lyon à 213 cas positifs pour 100 000 habitants, 242 pour Villeurbanne. On déplore de nouveaux décès, 43 décès dans le département du Rhône depuis le 1er septembre. Pour faire face d'ailleurs, le système hospitalier devrait déclencher un plan blanc très prochainement pour libérer des lits en réanimation. Toutes ces mesures, les mesures dont on parle ce soir, entrent en vigueur demain à 6h du matin. Elles seront réévaluées tous les 15 jours.
Mathilde Imberti, en direct de Lyon. Est-il encore possible d'empêcher la fermeture du site Bridgestone de Béthune? Gouvernement, élus locaux et syndicats ont-ils les moyens de faire pression sur la direction du géant japonais du pneumatique? Les ministres du Travail et de l'Industrie sont venus dans le Pas-de-Calais discuter avec les élus, les représentants du personnel et avec la direction Europe de Bridgestone. Le fabricant n'envisage pas de revenir sur la fermeture, mais le gouvernement veut mener une contre-expertise. On vous retrouve à Béthune, Maxime Debs.
Oui, après une réunion de 2 heures à l'issue de laquelle la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher a donné l'impression qu'un dialogue était possible.
La direction nous a très expressément dit qu'elle était prête à ouvrir avec nous des scénarios alternatifs. Nous ne voulons pas tomber dans la fatalité et nous résoudre à cette décision qui appelle une contre-expertise.
Une contre-expertise demandée par le gouvernement et un rendez-vous donné dans 2 à 3 semaines pour rediscuter calmement d'un possible projet alternatif comme un sursis. Xavier Bertrand, le président de la région de France.
Il ne s'agit pas de raconter l'histoire à qui que ce soit, mais on doit se battre comme les délégués syndicaux se battent et qu'on fasse front commun. Mais quand je dis faut se battre, faut se battre. Parce que là, tout ce qu'ils nous ont raconté sur le sujet, c'est quand même de la flûte. Ce qui veut donc dire que devant un tribunal français, ça ne tient pas leur motif de licenciement. Leur motif de licenciement, c'est juste pour que tout ça leur coûte moins cher.
Alors certes, il reste du chemin, mais ce syndicaliste garde espoir après le rendez-vous de cet après-midi.
Celui-là qui vous dit ça aujourd'hui, celui-là qui vous dit ça, c'est un doux rêveur. Là, on est dans la lutte, mais c'est bien la première fois que je vois qu'il y a unité nationale derrière Bridgestone. Il y a tous les syndicats, donc on est 5 syndicats, on est tous ensemble. Et ça, vous pouvez regarder par rapport aux médias et compagnie, c'est rare que ça peut arriver.
Les syndicats qui s'accrochent à cet espoir d'un front uni, mais qui savent aussi que la partie est encore loin, très loin d'être finie.
Maxime Debs, à Béthune. Il avait longtemps plaidé pour la suppression de l'École nationale de la magistrature. Devenu ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti a proposé au président de la République le nom d'une avocate pour prendre la direction de l'ENM. Une façon, explique-t-il, de rompre avec la tentation du vase clos et de l'entre-soi. Il a donc choisi l'avocate pénaliste Nathalie Roret, membre du comité d'éthique et vice-bâtonnière du barreau de Paris. Une nomination accueillie très fraîchement par l'Union syndicale des magistrats, principale organisation représentative de la profession. Écoutez sa présidente, Céline Parizeau.
L'ENM, elle se réforme en permanence et toutes les réformes vont dans le sens de plus d'ouverture. Évidemment, on ne forme pas les magistrats d'aujourd'hui comme on les formait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et les magistrats d'aujourd'hui sont, pour la moitié d'entre eux, issus de d'autres professions. En fait, une grande partie d'entre eux sont d'anciens avocats. Donc venir dire il faut absolument qu'on s'ouvre plus, oui, on s'ouvre plus et on continuera d'ouvrir l'école de la magistrature, et heureusement, mais il ne faut pas en faire un mantra comme si, par principe, l'école de la magistrature était une institution fermée et poussiéreuse. Monsieur Dupond-Moretti avait beaucoup d'idées sur la magistrature et sur son école avant d'arriver. Il a écrit beaucoup de choses. Donc manifestement, il reste sur des a priori plutôt que d'essayer d'approfondir les sujets. Et quand il dit il faut dépoussiérer l'institution parce qu'il y a des choses qui me semblent passéistes, à aucun moment à aucun moment, il ne donne le moindre exemple concret de ce qu'il faut réellement réformer et de ce qui pose vraiment problème. Donc, c'est une annonce complètement fumeuse pour introduire le nom de la nouvelle directrice.
La présidente de l'USM, Céline Parizeau, avec Frédéric Carbone. On vient de l'apprendre, à la suite des intempéries survenues dans le Gard, le corps d'un homme a été retrouvé mort dans le fleuve Hérault. Une femme est toujours recherchée, une soignante qui circulait en voiture. Demain mardi, le temps sera encore orageux sur un bon quart sud-est de l'Hexagone. Du soleil, le plus souvent au nord de la Seine, mais des nuages sur le nord-ouest. Les températures iront de 6 à 18 degrés le matin. L'après-midi, il fera 20 à 25 sur la moitié sud et près de l'océan, entre 23 et 28 dans le nord-est. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.